OK, alors, bon après-midi à tous. Moi, je vous invite de venir avec moi dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27, et on va continuer dans ce sens, comme le pasteur Roy m'avait déjà expliqué, que vous continuez à vous examiner présentement le sujet Jésus-Christ, notre Pâque. Alors, pasteur Roy m'avait demandé de continuer dans ce sens, et il m'a dit, c'est la première fois que je demande à un pasteur invité de faire partie d'une série qu'il était déjà en train de faire. Alors, j'espère qu'il ne serait pas dessous après, je peux vous dire que c'était vraiment une joie de pouvoir préparer ce message pour aujourd'hui et de pouvoir préparer au sujet de ce thème aussi, considérant qu'on est seulement 7 jours de Pâques. Évidemment, je crois qu'on devrait célébrer la résurrection de Jésus-Christ chaque jour. On devrait être un peuple reconnaissant chaque jour pour le fait que Jésus-Christ est vivant et qu'on a le salut dans son nom. Mais quelle bénédiction de pouvoir célébrer Jésus-Christ, notre Pâque. Il est notre agneau pascal. Et évidemment, chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, évidemment, on se rappelle la souffrance, la mort, mais également la résurrection de notre Sauveur bien-aimé. Et c'est ça comme Paul avait écrit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 11, 26. Il disait, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et lorsque j'entends ça, quelle bénédiction ces 3 derniers mots sont là. Jusqu'à ce qu'il vienne, 4, 5 derniers mots, je m'excuse, jusqu'à ce qu'il vienne. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend le repas du Seigneur, ce n'est pas, en fait, pas juste la mort de Jésus-Christ. Oui, on se rappelle sa mort, son sacrifice expiatoire, mais on se rappelle le fait que Jésus-Christ est vivant.
Amen.
Et il vit aujourd'hui. Amen. Et quel sujet de grâce, quel sujet de réjouissance, de reconnaissance aussi, qu'il est vivant, qu'il intercède pour nous, et qu'également qu'on va le voir un jour, un de ces jours, comme on vient de chanter.
Amen.
Mais on va réfléchir sur Jésus-Christ, notre Pâque, cet après-midi. Et je vous encourage aussi, soyez encouragés dans la vérité qu'il n'est pas resté mort, mais qu'il est ressuscité. Donc, vous êtes rendus dans Matthieu 27. Moi, je vais vous inviter de votre participation, s'il vous plaît, cet après-midi dans la lecture. On va lire, le pasteur Roy m'a demandé si on peut couvrir les versets 1 jusqu'au verset 31. Alors, moi, je vais lire le verset 1. Si je pourrais avoir votre implication, comme juste par la suite, lorsque quelqu'un termine un verset, quelqu'un d'autre commence un autre verset, et on va juste lire jusqu'à la fin du verset 31 dans Matthieu chapitre 27. Ça va juste reposer ma voix un petit peu aussi, mais ça va aider vous dans l'implication aussi. Donc Matthieu 27, je vais lire le verset 1 et quelqu'un d'autre le verset 2 et chacun un verset jusqu'à la fin du chapitre. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur.
Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe? Cela te regarde. »
Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et allait se pendre.
Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent qu'il n'a pas permis de les mettre dans les trésors sacrés, puisque c'est le prix du sang.
Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers.
C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour.
Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé la part des enfants d'Israël.
Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné.
Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit. « Tu le dis. »
Mais il ne répondit rien aux accusateurs des principaux sacrificateurs et des anciens.
Alors Pilate lui dit, « Entends-tu pas de combien des choses il t'accuse ?»
Mais il ne lui répondit pas une parole, de sorte que le gouverneur en était fort surpris.
À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule.
Il y avait alors un prisonnier insigne nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? »
Car il savait que c'était par l'envie qu'il avait livré Jésus.
Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire, « Il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. »
Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus.
Le gouverneur, prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. »
Pilate leur dit, « Que ferais-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? » Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. »
Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. »
Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste, cela vous regarde. »
Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous. »
Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de vers Jésus, il le livra pour être crucifié.
Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cour.
Ils lui ôtèrent ses vêtements et les couvrirent des manteaux écarlates.
Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, il le raillait en disant « Salut, roi des Juifs! »
Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier.
Je vais juste suivre avec moi, s'il vous plaît, dans Matthieu chapitre 28, le verset 1. On va juste toucher ce verset brièvement, tantôt. Matthieu 28, le verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. On va juste arrêter là. Alors, on va prier et ensuite on va continuer. Merci Seigneur pour ta parole, merci de ce temps de lire ta parole. Seigneur, je te demande que tu puisses juste enseigner nous cet après-midi, que tu puisses nous guider, Seigneur. Et, ah oui Seigneur, aide-nous de ne pas être des auditeurs oublieux, mais Seigneur, qu'on soit attentif à ta parole. Et Seigneur, qu'on puisse laisser ta parole, Seigneur, nous fortifier, Seigneur, nous enseigner, Seigneur, et aussi nous instruire dans tes voies. Je te demande toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Première chose, lorsqu'on considère ce texte ici dans Matthieu chapitre 27, le premier verset du verset 27, du chapitre 27, ça nous dit « Dès que le matin fut venu ». Et je voudrais juste considérer un petit peu, juste pendant 3-4 minutes, deux matins différents mais nécessaires. Deux matins différents mais nécessaires. Parce que je viens juste de lire Matthieu 28, 1, et je ne veux pas comme prendre le, ce que le pasteur Roy va prêcher au cours des prochaines semaines, mais c'est intéressant parce qu'après la résurrection de Jésus-Christ, ça dit dans le verset 1, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Et évidemment, on sait c'est ce qu'elles allaient trouver Jésus-Christ ressuscité. Mais c'est intéressant que ce chapitre commence par « dès que le matin fut venu ». Ce matin était le début d'une journée très, très sombre à Jérusalem. Les disciples allaient se trouver en désespoir après cette journée. En fait, la Bible nous dit qu'ils allaient se disperser cette journée-là. Mais ce matin et cette journée étaient nécessaires pour accomplir le plan de Dieu pour que ce soit réalité, ce qui s'est produit dans le chapitre 28:1, la résurrection de Jésus-Christ, sa résurrection victorieuse, sa résurrection triomphante. Quelle bénédiction, quel réconfort que même lorsque les choses semblent tourner à l'envers. Je crois qu'ici à Saint-Augustin, probablement, vous en tant que membre, vous avez déjà connu des moments au cours des deux dernières années qui semblaient que les choses tournaient à l'envers. Est-ce que c'est vrai? Oui, ok. Donc, on vit des mêmes choses. Mais lorsque ça semble que les choses tournent à l'envers, comme les disciples, cette journée-là, ça allait leur sembler que tout tourne à l'envers. Et quelle bénédiction de savoir que même lorsque ça semble que les choses semblent tourner à l'envers, que notre Dieu est toujours en contrôle.
Amen.
Il nous faut nous confier en lui qu'il est en train de faire dérouler son plan selon son timing parfait, même si on ne le comprend pas. Juste comme petite illustration là-dessus, combien d'entre vous est-ce que vous avez déjà pris des avions et vous avez fait, le pilote avait fait son approchement dans les nuages vers un aéroport? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Et est-ce que cela vous est déjà arrivé? Est-ce qu'à un moment donné, peut-être vous voyez un petit peu de la terre, peut-être si vous approchez à Québec, et vous voyez la terre, vous voyez le sol, vous dites, qu'est-ce qu'il fait? Ça a l'air que... il ne fait pas un approchement direct. Est-ce que vous avez déjà demandé si le pilote connaissait vraiment son affaire? Parfois, on peut se demander, mais comment, quel chemin est-ce qu'il prend pour nous rendre ici? Évidemment, il y a un plan qu'il doit suivre, un approchement approprié qu'il doit suivre pour le bien-être de tous qui se servent de l'aéroport. Mais quelle bénédiction, lorsque ça semble que les choses tournent à l'envers, de pouvoir nous confier dans notre capitaine, n'est-ce pas? De pouvoir nous confier dans son plan, dans son timing, même lorsqu'on ne connaît pas exactement ce qu'il est en train de faire, même lorsqu'on ne comprend pas pourquoi il permet des choses. Deux matins différents, mais deux matins nécessaires pour l'accomplissement du plan de Dieu. La deuxième chose, je voudrais qu'on puisse examiner, je ne vais pas prendre le temps pour relire tous les versets, on a les versets devant nous, on vient de les lire ensemble. Mais la deuxième chose, je voudrais qu'on puisse considérer, c'est le rejet de Jésus-Christ par le monde. Dans le verset 2, la Bible juste nous dit, après l'avoir lu, ils l'amenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Et dès le verset 11 jusqu'au verset 26, on voit le rejet de Jésus-Christ par le monde. Ces versets nous montrent à quel point le monde est Jésus-Christ. Les leaders religieux, les juifs, les leaders gouvernementaux, le monde haïssait Jésus-Christ. Celui qui était sur le point de se donner sa vie en paiement pour leurs péchés et qui leur offrait le pardon, le salut, l'éternité au ciel, le monde a rejeté le Sauveur, leur Créateur qui les aimait tant. Comme on vient de constater ce matin, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 18, 38, Pilate disait même à propos de Jésus, je ne trouve aucun crime en lui. Pilate ne trouvait aucune raison de condamner Jésus à la mort, mais il s'est laissé influencer par les leaders religieux, par le peuple, et voulait plaire au peuple pour rejeter Jésus-Christ. Lorsque on considère le rejet de Jésus-Christ par le monde, que Jésus-Christ aimait tant, ça nous aide, car aujourd'hui on connaît ce que cela ressemble de connaître la rejection du monde. De nous, tout simplement en raison du fait qu'on porte le nom du Seigneur Jésus-Christ en tant que chrétien. Jean 15, 18 à 20 nous promet, Jésus-Christ nous promet, si le monde vous haït, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, même si on aime le monde, et je parle des âmes, je parle d'aimer les âmes, même si on aime les âmes dans le monde, tant d'aller vers eux dans l'amour pour leur annoncer l'évangile, pour se soucier de leur âme et de leur éternité, on peut s'attendre qu'on ne soit pas toujours aimé et que le monde va nous rejeter. Un petit commentaire à ce sujet aussi. La Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ était condamné et rejeté en se tenant devant Pilate, la Bible nous dit Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole. Savez-vous quoi? Lorsqu'on pense qu'on prend bien le ridicule, etc., il faut juste avoir quelque chose dit à nos sujets de personnel. Et savez-vous quoi? Nous sommes vite, n'est-ce pas, à essayer de nous défendre. Est-ce que vous êtes pareil? Nous sommes vite à essayer de nous défendre que nous sommes rejetés. Mais Jésus n'a rien dit. On peut apprendre de l'exemple de Jésus. Et c'est qu'il y a des moments qu'il faut parler. Mais ceci me rappelle dans Exode 14:14, la Bible nous dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Donc non seulement on voit deux matins qui étaient différents mais importants, mais on voit, nécessaire, je m'excuse, on voit le rejet de Jésus-Christ par le monde, mais également on voit le rejet de Jésus-Christ par son propre disciple. Dans les versets 3 à 10, évidemment, on parle de Judas Iscariote. Et quelque chose qui est vraiment frappant à ce sujet, on a dévoilé juste un tout petit peu ce matin à ce sujet, lorsqu'on parlait de Judas. Mais Jésus, quelque chose qui me faisait réfléchir, Judas était devant Jésus pendant presque 3 ans de temps. Judas a enseigné à Judas. Jésus a prêché devant Judas. Jésus a fait des miracles devant Judas. Jésus a aimé Judas. Jésus se souciait de Judas. Jésus a nourri Judas. Vous rappelez-vous bien lorsqu'ils avaient ramassé les 12 paniers de nourriture après que Jésus avait fait le miracle de nourrir la foule de 5000 hommes. Ça n'incluait pas les femmes et les enfants avec les deux poissons et les cinq pains. Jésus a nourri Judas. Jésus a invité Judas de le suivre, sachant tout au long qu'il allait le trahir. Judas se comptait avec les disciples. Comme c'est difficile lorsque le peuple de Dieu, lorsque quelqu'un qui se dit chrétien tourne contre son frère ou sa sœur dans le Seigneur, seulement pour avoir fait le bien, pour avoir cherché tout simplement à honorer Christ. Quelle tristesse, quel dommage! Mais c'est certain qu'alors qu'on s'approche au retour de Christ, qu'on va probablement voir ceci de plus en plus dans cette période qu'on croit est la période laodicéenne. C'est la bonne façon de dire laodicéenne? Est-ce que c'est la bonne façon de dire? Ok. C'est intéressant parce que Jean a écrit à ce sujet d'un homme qui se disait chrétien, qui était hostile envers les serviteurs de Dieu. Dans 3 Jean 9, la Bible nous dit, Jean disait, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Quelle tristesse! C'est quelqu'un comme Jean que le Seigneur a utilisé d'une grande façon, a connu comme Jésus-Christ a connu ceux qui se disaient chrétiens qui les rejetaient. Mais quelle grande tristesse lorsque aussi un chrétien abandonne son maître, comme quelqu'un dernièrement a parlé de ça. Lorsque quelqu'un abandonne à suivre le Seigneur, lorsqu'il fait des compromis pour plaire au monde, pour plaire à la foule au lieu de plaire au Seigneur Jésus-Christ. Moi, je vous encourage, comme vous faites déjà, mais je vous encourage cet après-midi de continuer à chercher premièrement à plaire au Seigneur Jésus. Il est notre vie, comme on vient de chanter. Il est notre vie. Il est notre raison d'être. La Bible parle du fait que le monde va passer et ses convoitises. C'est ma prière d'entendre une fois rendu au ciel, c'est bien bon et fidèle serviteur. Comme Pierre avait répondu, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. On voit le rejet de Jésus par son propre disciple, par le monde. Mais également, on voit quelque chose d'autre qui donne à réfléchir dans ce texte. On voit la fin, ou on peut dire le sort misérable de Judas. Le sort misérable de Judas. Dans Actes chapitre 1, le verset 16 à 18, ça nous parle plus au sujet de la mort de Judas. Juste écoutez quelques versets au sujet de la mort de Judas. Dans Actes chapitre 1, le verset 16 à 18, la Bible nous dit, « Homme, frère, il fallait que s'accomplit ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. C'est pas très beau, n'est-ce pas? Quelle fin misérable de Judas! Il a trahi le Sauveur pour de l'argent. Mais cela ne le satisfaisait pas. La rejection du Seigneur Jésus-Christ amène toujours à une fin, à un sort misérable. Je me rappelle toujours le pasteur Roy qui disait souvent, c'est le propre rejet du Seigneur Jésus-Christ par une personne qui l'amène en enfer. La seule chose qui amène un individu à l'enfer, c'est son propre rejet du Seigneur Jésus-Christ. Chaque individu qu'on croise qui rejette le Seigneur va subir une fin misérable dans l'enfer. Comme on a juste touché un petit peu ce matin, l'enfer est vrai, l'enfer est réel. Il est à nous d'avertir le monde de cette fin misérable, cette fin tourmentueuse. Ce n'est pas l'argent qui va les sauver, ce n'est pas la religion, ce n'est pas les bonnes œuvres qui sauvent l'individu de l'enfer. Je crois qu'on voit clairement dans ce passage l'hypocrisie et la folie de la religion. Car les leaders religieux qui avaient payé Judas de leur livrer Jésus-Christ, disait, est-ce que vous avez constaté ce qu'ils avaient dit à Judas? Ils avaient dit, ah, mais ce n'est pas permis selon la loi de mettre cet argent dans le trésor sacré du temple, car c'était le prix du sang. Quelle hypocrisie! C'était eux qui avaient donné cet argent à Judas. Et ensuite, Judas le ramène et ils disent, ah, non, ce n'est pas selon la loi de remettre cet argent dans le trésorier. Jésus disait des mots pas très complémentaire. Est-ce que ça se dit bien? Pas très complémentaire par rapport aux leaders religieux à l'époque qu'ils rassemblaient à des sépulcres. Je m'excuse. Jésus disait au sujet des leaders religieux à l'époque qu'ils ressemblaient à des sépulcres blanchis qui paraissaient beaux en dehors, mais ils étaient pleins d'ossements et de morts, de toute espèce d'impureté dedans. N'oubliez jamais la réalité de l'enfer. De l'enfer éternel qui est la fin, qui est le sort de tous ceux qui rejettent Christ. Ah, que l'amour pour les âmes et la réalité de l'enfer nous pousse à avertir le monde perdu de la grâce salvatrice et le salut uniquement par la foi dans la personne de Jésus-Christ notre Pâque. C'est seulement Jésus-Christ qui peut sauver l'âme de l'individu, qui peut leur donner une vie bienheureuse et un sort béni. Mais une autre chose je voudrais qu'on puisse considérer dans les versets 22 jusqu'à la fin du chapitre, c'est la souffrance de Jésus, notre innocent agneau pascal. Jésus-Christ a beaucoup souffert, il a beaucoup subi d'injustice. Lui qui est innocent, sans péché, il a tout subi pour nous, le pécheur. 2 Corinthiens 5, 21 nous parle de ce fait. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour, c'est quoi le prochain mot? Pour nous. Afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a subi la souffrance physique alors qu'il a été battu de verges. Et au bout des verges, selon ma recherche, au bout des verges, ils avaient une je crois que ça s'appelle une feutre, c'est F-O-U-T-E, je crois que ça s'appelle, une feutre de cordon en roseau avec les morceaux de fer, des épines ou clous sur chaque cordon. Chaque fois que la fouette a traversé le dos de Jésus-Christ, ou chaque fois que ça touchait à ses bras et ses jambes, ça ouvrait sa peau. Jésus a subi toute cette souffrance. Jésus a également subi la souffrance physique alors que l'on a placé sur lui une couronne d'épines sur sa tête. Alors que les épines se fonçaient dans la peau, dans sa crâne. J'imagine aussi Jésus a subi la souffrance mentale et émotionnelle et spirituelle en voyant sa propre création en train de le rejeter. De rejeter leur propre créateur, leur sauveur. Jésus a subi, j'imagine aussi, la souffrance mentale lorsque les soldats lui ont ôté ses vêtements. Quelle honte il a subi pour nous. Jésus a subi cette souffrance d'humiliation d'avoir du monde craché contre lui. Ça représentait une action si dégradante de faire savoir à quelqu'un qui ne valait rien à leurs yeux. Les moqueries qui ont été lancées à Jésus-Christ servaient pour humilier Jésus davantage. Lui qui est juste, qui est saint, parfait, innocent, a tout subi pour nous, le pécheur. Quelle souffrance que Jésus, notre innocent agneau pascal, a subi pour nous. Ésaïe 53, le verset 3 nous dit, « Méprisé et abandonné des hommes. » Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Je ne sais pas quant à votre sujet, mais on n'aime pas la souffrance chez nous. Mais la souffrance, ça fait partie de la vie de l'enfant de Dieu et de celle qui va honorer le Seigneur. Jean 15, 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Me fait penser aussi à Pierre qui avait renié Jésus-Christ. Mais Jésus l'avait rétabli en bonne communion et Pierre est devenu audace pour le Seigneur. Il faisait partie des apôtres dans Actes chapitre 5 et il disait, on appelait les apôtres, ils les firent battre de verges et leur défendirent de parler au nom de Jésus-Christ. Ils les relâchèrent, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Et constatez les prochains mots dans Actes chapitre 5, 41. Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Joyeux d'avoir été jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus. Quelle est votre réponse à la souffrance qui vient en raison de suivre le Seigneur? C'est pas plaisant, n'est-ce pas? Et vous connaissez ça. Mais selon la parole de Dieu, on peut compter ça une joie. De pouvoir être jugé digne de subir des outrages pour le nom de Jésus-Christ. Deux autres choses que je voudrais qu'on puisse examiner avant de terminer cet après-midi. Dans les versets 14 et 15 de Genèse chapitre 3, je vous invite, gardez votre place dans Matthieu 27, mais juste reculez dans Genèse chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, parce que quelque chose qu'on voit ici dans Matthieu chapitre 27, c'est l'accomplissement des Écritures. C'est l'accomplissement de la prophétie. Et je vais juste lire Genèse chapitre 3, les versets 14 et 15. Évidemment, tout ce qui s'est produit était prophétisé dès la naissance de Jésus. D'une vierge, la trahison par Judas, sa souffrance, tout cela était prophétisé. Ça faisait partie du plan de Dieu pour la rédemption. Et même ce qui se passait avec Judas, ça remplissait la prophétie de Jérémie, comme les versets 8 et 10 nous disent. Donc, Genèse chapitre 3, vous êtes rendus. Suivez avec moi dans les versets 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Tout cela, c'était l'accomplissement des prophéties qui étaient en train de s'accomplir, même cette journée-là. Matthieu chapitre 24, le verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Matthieu 5, 18, « Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de l'être jusqu'à ce que tu sois arrivé. » L'accomplissement des Écritures, l'accomplissement de la prophétie. Quel réconfort, même on voit la mort de Jésus-Christ, sa résurrection, oui, tout cela a été prophétisé, on voit tout cela, mais quel réconfort que Dieu est toujours fidèle et il va accomplir tout ce qu'il nous dit, il va accomplir tout ce qu'il nous promet, tout ce qu'il est prophétisé, il va accomplir. Moi, je vous encourage, confiez-vous en lui de tout votre cœur. Il est digne de votre pleine confiance dans les bons moments et dans les mauvais aussi. Proverbe 3, 5, la première partie nous dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » De tout ton cœur. Je voudrais juste utiliser une brève illustration à ce sujet, mais j'ai entendu à un moment donné quelqu'un qui... il y a une chaise ici. J'ai entendu quelqu'un à un moment donné qui embarquait à bord d'un avion pour faire un voyage et il disait, « Ah, je n'ai pas vraiment pleine confiance dans cet avion-là. Donc, écoute, j'ai un plan. Ce que je vais faire, lorsque je m'assois, je ne vais pas mettre tout mon poids sur le siège. Donc, il s'assoit comme ça et il fait comme ça. Okay. Mais on se rend compte, Philippe, quand quelqu'un embarque dans un avion, est-ce que l'avion supporte tout son poids? Oui. Même s'il ne veut pas mettre tout son poids sur le siège, l'avion déjà soutient tout son poids. Mais c'est intéressant parce que le passager qui dit oh, « j'ai pas quelle confiance dans cet avion » et l'autre passager qui est à côté de lui dit oh, « bel avion !» Il commence à ronfler, ça se dit ouais. Il commence à ronfler. J'ai déjà constaté ça dans un vol entre Tokyo et Chicago, un vol de, autour de 13 heures de long, des personnes qui renflaient sur le bord de l'avion. Mais c'est intéressant parce qu'on peut constater différentes, si on peut dire, réponses, même dans un avion. Mais savez-vous quoi? La personne qui faisait comme ça, elle a bien aimé bien plus son voyage que celui qui était tout stressé tout au long du voyage. Et la même chose est arrivée. L'avion départ de point A et ça atterrit à point B. Moi, je vous encourage à avoir pleine confiance dans la parole de Dieu, à avoir pleine confiance dans le Seigneur, dans ce qu'il nous promet. Parce qu'il va toujours respecter sa parole. Mais la dernière chose qu'on va terminer avec ça cet après-midi. On a devant nous, même dans ce texte, un petit peu comme on a examiné ce matin, on a une grande question et on a un grand choix devant nous. Et dans ce texte, Pilate a posé une question intéressante dans le verset 22. Je crois qu'on a même un traité qui est avec ce titre là-dessus. Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Pour son sujet, malheureusement, Pilate a choisi de plaire aux hommes. Et on peut dire, oui, on sait que c'est selon l'accomplissement des prophéties, etc. Mais Pilate a choisi de plaire aux hommes, de plaire à la foule, de plaire au monde et rejeter Jésus-Christ. Pilate a choisi de libérer un meurtrier pour condamner à la mort Jésus. Acte 3, 14 et 15 nous en parle. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce de meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et cette question que Pilate a posé, il s'agit de la question à laquelle il nous faut tous répondre. Que ferai-je de Jésus-Christ? Est-ce que je vais rejeter le Sauveur pour choisir la mort éternelle? Me faisait penser aussi à Moïse dans Deutéronome chapitre 30 et le verset 15, quand Moïse implorait son peuple à suivre Dieu. Il disait, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Moi, je vous encourage, comme quoique c'est le cas pour vous tous, mais je vous encourage de bien choisir le bien et la vie en Jésus-Christ, notre Pâque. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce passage, Seigneur, qui nous présente toi comme notre Pâque. Et Seigneur, on te remercie pour ton sacrifice, on te remercie pour même tout ce que tu as subi de, le rejet du monde, le rejet de, même de ton propre disciple et un autre qui t'avait renié. Seigneur, tu as, et les autres disciples qui s'est enfui, qui se sont fuis. Seigneur, merci, Seigneur, que de tout ce que tu as fait pour nous, en tant que notre Pâque, Seigneur, tu t'es livré toi-même pour nous. Tu as subi des injustices, tu as subi la souffrance, les moqueries, la douleur physique, Seigneur, lors de la, lorsque tu étais lapidé, de, pas lapidé, mais après la fouette de verge, Seigneur, tu étais également, tu as également subi la souffrance avec la couronne d'épines. Seigneur, merci pour cet amour. Merci pour ce sacrifice, notre Pâques. Ah Seigneur, on se réjouit dans ton sacrifice et dans ta victoire également. Dans ta vie, Seigneur, merci quand toi tu es ressuscité. Merci qu'on a un Sauveur qui vit, qui intercède pour nous. Merci, toi tu es notre Pâques. Merci Seigneur, et Seigneur, aide-nous de fidèlement proclamer cette bonne nouvelle. Seigneur, à Pâques, lorsqu'on considère Pâques qui s'en vient dimanche prochain, Seigneur, quelle bénédiction de pouvoir annoncer, Seigneur, que Jésus-Christ est l'agneau pascal. Il est notre Pâques. Il a pris notre punition. Il a payé la dette pour notre péché. Ah Seigneur, aide-nous de bien proclamer cette bonne nouvelle, cet évangile, Seigneur, afin que les âmes soient sauvées par ta grâce, par la foi en ton nom. Je prie toutes ces choses en nom de Jésus. Amen. Amen.